VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h30, universel, dans 5 minutes, AEV, l'Amérique et vous, avec John Lyndon, mais tout d'abord, les nouvelles. Au Burkina Faso, l'affaire Thomas Sankara défrait toujours la chronique. Ce matin, la justice burkinabé a révélé que les tests d'ADN sur les restes du chef d'État assassiné n'ont pas été concluants. Par ailleurs, on apprend que l'ancien président Blaise Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Barassikora.
Oui, on l'a appris aujourd'hui, la justice burkinabé a lancé depuis le 4 décembre un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré. Ce dernier vit en Côte d'Ivoire depuis sa fuite du pouvoir en octobre 2014. Par ailleurs, la justice burkinabé a révélé que les tests ADN sur les restes de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons n'ont pas été concluants. Maître Sankara, avocat de la famille.
Au troisième niveau, l'expertise scientifique conclut qu'il n'y a pas d'ADN détectable conformément à l'état actuel de la science.
Lors de l'audience ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Gilbert Diendéré, inculpé dans l'affaire Sankara, a comparu. L'ancien bras droit de Blaise Compaoré, auteur du coup d'état manqué de septembre dernier, ne portait pas de menottes. Thomas Sankara et 12 autres compagnons ont été abattus le 15 octobre 1987 lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir.
Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Anadive bientôt aux commandes de la MINUSMA, la mission des Nations Unies sur place. Il prend la fonction le 14 janvier 2016. L'ancien chef de la diplomatie tchadienne est conscient de l'ampleur du travail qui l'attend, en particulier pour faire appliquer l'accord de paix d'Alger. On écoute le prochain patron de la MINUSMA.
On ne peut pas faire la paix au Mali sans les Maliens. Cet accord a été signé par le Malien. Donc je vais vraiment m'investir pour que son application puisse voir le jour. Maintenant, parallèlement à ces acteurs qui ont signé l'accord d'Alger, il y a ce qu'on appelle les groupes armés terroristes, qui, eux, n'entrent pas dans ce schéma-là. C'est les gens qui ont opté pour une guerre asymétrique, dont souvent on ne connaît même pas l'objectif. C'est des gens qui sont tout simplement imbus par la notion de tuer, la notion de terroriser, la notion de détruire, mais la MINUSMA fera tout pour combattre ces groupes armés et terroristes afin que des actes comme celui de l'hôtel Radisson Blu ne puissent pas se produire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise burundaise. Au Burundi, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ce lundi ont dit non, en présence des représentants de la communauté internationale, à l'envoi de troupes de l'Union africaine au Burundi, comme l'avait demandé le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation panafricaine. Les autorités législatives burundaises affirment que la paix règne dans leur pays et qu'un génocide est impossible au Burundi, qui est un pays voisin du Rwanda. La crise actuelle fait suite au troisième mandat contesté du président burundais Pierre Nkurunziza. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Les parlementaires et sénateurs burundais se sont réunis ce lundi en congrès, une situation qui arrive très rarement, sauf à des circonstances prescrites par la loi. Le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour accuser certains pays et lobbies étrangers comme la Belgique qui veulent se substituer aux représentants du peuple. Tous les représentants du peuple qui se sont exprimés ont affirmé que ces 5000 militaires africains, s'ils arrivent à Bujumbura, voudront créer une milice et le chaos. Tous ont répété à qui veut l'entendre que la paix est totale au Burundi à 88%, comme aime bien le déclarer le président de la République, Pierre Nkurunziza. Mais l'ancien opposant Agathon Rwasa, qui a rejoint les institutions, a une position assez mesurée et équilibrée. Il a déclaré que même si une colline du Burundi connaît des problèmes sécuritaires, le problème peut être national, car le Burundi est une même nation indivisible. Il a indiqué qu'il faut faire attention, car cette insécurité peut se propager dans d'autres localités du pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Rwanda, le président Paul Kagame a remercié aujourd'hui ses concitoyens pour avoir participé massivement au référendum constitutionnel qui pourrait lui permettre potentiellement de continuer à diriger le pays jusqu'en 2034. Mais dans son discours annuel sur l'état de la nation aujourd'hui, il n'a pas précisé s'il se représenterait en 2017. Et pour terminer, en RCA, plus qu'une semaine avant l'élection présidentielle du 27 décembre, un scrutin couplé au législatif est crucial pour la sortie de crise en RCA. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine, au micro de présentation John Linden. Michel Joseph assure la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve tout juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. À la suite des attaques djihadistes, les États-Unis ont annoncé le 30 novembre dernier un durcissement de leur programme d'exemption des visas dont bénéficient les ressortissants de 38 pays, dont 23 pays de l'Union européenne. Selon le département de la sécurité intérieure, environ 20 millions de voyageurs sont entrés aux États-Unis sans visa en 2013. Ce nombre représente un peu plus du tiers des visiteurs temporaires durant cette période. Et même s'il n'existe pas de pays en Afrique bénéficiant d'exemption de visa d'entrée aux États-Unis, ce durcissement risque de compliquer les choses pour les Africains. Alors, question, que pensez-vous du durcissement de l'octroi des visas aux États-Unis face à la montée du terrorisme? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 31 34. Pour cette édition, nous avons deux invités, Maître Joseph Fa. Bonsoir. Voilà. Merci de votre disponibilité. Je vous pose la question. Les États-Unis envisagent donc de durcir l'octroi des visas d'entrée sur leur territoire pour faire face à la menace terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, je pense que le durcissement des visas, des conditions d'obtention des visas, c'est certainement pour prévenir les menaces, la poussée de l'extrémisme. Comme vous-même vous le voyez dans le monde de l'islam, ça concerne plus les pays avec qui les États-Unis ont le libre octroi des visas.
Alors, est-ce que ces mesures ne vont pas plus sévèrement affecter les ressortissants africains?
Ben, je pense que les mesures, je compte très peu de pays qui ont la libre circulation des visas avec l'Amérique. Et il y a les processus d'échange où vous, si vous êtes par exemple ressortissant français, vous avez la possibilité de venir aux États-Unis sur un, ils appellent ça exchange visa, pour une période limitée de 90 jours. Mm-hmm. Et quoi, vous devez renouveler votre séjour. Je ne pense pas que l'Amérique a ce genre de partenariat avec plusieurs pays en Afrique.
Il n'y en a pas en Afrique de toute façon.
Donc, certainement, le durcissement des conditions de visa, c'est certainement, si vous étiez au niveau des États-Unis, on va parler de background check. Mmh. Et je ne pense pas que ça va cibler uniquement les musulmans. C'est simplement, au cas par cas, suivre, est-ce que vous avez des contacts avec le Middle East, le Moyen-Orient? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous êtes djihad? Est-ce que vous avez la tendance vers l'extrémisme? Moi, je pense que c'est dans ce sens que la nouvelle réglementation va se diriger. Je ne pense pas que ce serait tout le monde n'a pas de visa, point blank. Je ne pense pas que ce serait le cas.
En tout cas, on va en discuter aujourd'hui avec nos auditeurs. On a quelques réactions sur Facebook. Celle-ci est de Benjamin Goué. Il dit « Moi, je pense que le grand problème ne vient pas de là parce que plus vous durcissez l'octroi des visas, plus les terroristes développent les mécanismes d'entrée qui ne nécessitent pas forcément des demandes de visas. J'aurais souhaité que les États-Unis trouvent le temps de revoir leur politique extérieure et qu'ils coopèrent avec les groupes terroristes pour pouvoir connaître ce qui les pousse à commettre ce genre de crime. Vous pensez, Maître Josepha, qu'il faut parler avec les terroristes?
Non, moi, je ne pense pas qu'on peut parler avec les terroristes. Je ne pense pas qu'il faut parler avec les terroristes. Moi, je pense qu'il suffit simplement de faire ce que le FBI est en train de faire ce que les organismes d'information, de renseignement sont.